Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un roman de Marie-Aimée Le Breton, Jacques et la corvée de bois, paru chez Buchet-Chastel en 2020. Quelqu'un de bien avait noté Mangano quand la commission lui avait demandé son avis. C'était à cause de son attitude réservée, des joues trop creuses, une déformation congénitale qui rendait son aspect singulier. À part ça, une bonne éducation, le sens du devoir et une attitude respectueuse à l'égard de toute forme d'autorité. Ce n'était pas facile de recruter parmi les jeunes appelés. À ce stade, il valait mieux ne pas se tromper. Ces derniers temps, l'armée française avait perdu beaucoup d'hommes et quand il avait accepté la mission, Mangano s'était juré de ne rien laisser passer. En sortant de l'entretien, Jacques avait allumé une cigarette. Il regardait devant lui, ne pensait à rien d'autre qu'à avaler chaque bouffée. Un plaisir dans la vie, avaler une bouffée, la retenir un peu puis la laisser sortir. Avant de rentrer chez lui, il s'était assis dans les jardins de la fontaine. L'été finissait. Puis il s'était dit qu'il irait bien retrouver François. Après le lycée, François était parti faire ses études à Paris. Il réussissait bien. Quand il rentrait, Jacques et François n'avaient pas toujours le temps de se voir. Comme les prisonniers qui tracent des traits sur les murs pour compter les jours, Jacques faisait des croix au dos des paquets de cigarettes, au début. Après, il avait arrêté. Il se souvenait qu'une nuit, François et lui s'étaient laissés enfermer dans les jardins. Ils avaient refait le monde, parlé des filles, fumé leur première cigarette. C'était l'époque des baltos, un paquet avec un liséré rouge et noir. Jacques allait souvent se promener avec sa mère, Noémie. C'était avant la maladie. Avant le cancer, une masse sombre dans sa poitrine comme un mauvais rêve, une nuit. C'est son père qui lui avait annoncé sa mort. Puis, Jacques s'était senti fautif. Avant la maladie, ils allaient chez le glacier de la rue Pasteur. De ses douceurs passagères, il conservait le goût intact. Elle avait des projets pour lui et des désirs énormes. Jacques avait 14 ans quand elle les a quittés. Ça lui avait fait tout drôle que Mangano le tutoie. Il se disait que c'était sans importance, mais ça lui avait fait tout drôle quand même. C'était comme ça dans l'armée. D'ailleurs, il ne s'était pas risqué à demander combien de temps durerait la mission. Le temps du service militaire, probablement. Qui sait ce qu'elle aurait pensé? Sans doute, lui aurait-elle caressé les cheveux comme quand il était enfant. Est-ce parce qu'elle avait des projets pour lui et des désirs énormes que Jacques traversait la vie en confiance? Jusqu'ici, il n'avait opté ni pour le ressentiment, ni pour la grandeur d'âme. Il avait le goût des autres, s'inquiétait pour ceux qu'il aimait et les choses s'arrêtaient là. Il était convaincu qu'il est inutile de vouloir changer le monde. En dehors de la vulgarité qu'il détestait, le reste était sans importance. Il n'avait pas d'idée préconçue sur la réussite ou sur le bonheur et ne défendait aucune cause, même avec les filles. Il les aimait, puis il ne les aimait plus, sauf Jeanne. Il aimait Jeanne. Mangano était un type sûr de lui qui avait fait la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, l'Algérie, c'était de la rigolade. Il ne le disait pas comme ça. Il avait vu beaucoup d'appelés avant Jacques. Il dirait probablement oui parce qu'il le trouvait sympathique. Une décision qu'il ne pourrait pas expliquer, en rapport avec le grain de la voix, une certaine indifférence, le regard incertain, sans doute une façon d'être. Jacques se souvenait que ça lui avait fait pareil quand il avait passé son certificat d'études. Une confiance naturelle face aux épreuves, une indifférence dans l'attitude qui le sauvait de bien des situations. Le lendemain, Jacques était sorti très tôt. Ça l'avait empêché de dormir toute cette histoire. Enfin, il se disait que ça ne pouvait que bien se passer. C'est vrai, quand il y pensait, il avait toujours fait les choses de sorte que ça se passe bien. Alors, il ferait comme pour le reste et tout se passerait bien. Le passage des premières locomotives laissait une petite trace mauve dans le ciel. Elle transportait les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers navals près de Montpellier. La vapeur qui sortait se confondait avec la brume des marécages, reliquat atmosphérique qui ne disparaissait jamais complètement. Cette zone bordée de roseaux et de salicornes était habitée par des familles de gitans. Ils étaient là depuis des générations, mais ils avaient dû changer leur mode de vie à cause des programmes d'assainissement des étangs. S'aventurer dans la zone était risqué, pas seulement à cause des marécages. Les gitans n'avaient pas bonne réputation. Ils ne se mélangeaient pas aux autres. Nîmes était une ville différente des autres villes du Sud. Elle n'avait pas les avantages touristiques qu'offrent Marseille ou Montpellier. Dès les premiers jours de juillet, les vacanciers descendaient en voiture par la Nationale 7. Pour la plupart, l'été était synonyme de bains de mer ou de balades dans l'arrière-pays. Contrairement à l'agitation estivale qui régnait dans les villes côtières, Nîmes affichait une douceur de vivre, une confidentialité charmante, une désuétude renforcée par les maisons robustes aux volets vert bronze et aux persiennes fermées. En descendant la rue Pasteur, Jacques repensait à Mangano. Il lui avait présenté le 35e régiment comme une chance pour les gars qui ne feraient pas d'études. Une fois rentré, il trouverait dans l'armée un poste intéressant. Jacques s'en fichait pas mal. Mangano lui avait dit qu'il pourrait bien changer d'avis. Ce n'était pas une vanité de principe. L'indifférence prenait sa source chez les hommes libres comme chez ceux que la naissance n'avait pas favorisés. C'était le cas de François. Lui aussi s'en fichait pas mal, mais pour des raisons différentes. François venait d'un milieu aisé. Son père était dans les affaires. Il dirigeait une société de béton fondée par le grand-père de François à la fin du 19e siècle et voyageait beaucoup. Jacques et François se connaissaient depuis le collège. Au début, ils rentraient de l'école sans se parler. Après, ils avaient lié une amitié clandestine. François était à l'aise avec tout le monde et maîtrisait les codes de la conversation. Jacques était plus discret et cherchait ses mots. Un jour, ils se sont rendus compte qu'ils se voyaient presque tous les jours. Après le collège, ils allaient se baigner dans le Vidourle ou bien prenaient leur vélo et montaient jusqu'à Baron. Dans les côtes, ils souriaient. Leur corps prenait la lumière. Ils n'avaient pas encore le souci du monde. François était sûr de lui et passionné de philosophie. Tout le contraire de Jacques, qui ne comprenait pas toujours que l'on puisse s'émouvoir d'un auteur ou d'une poésie. Leurs caractères opposés ne les empêchaient pas d'aimer se retrouver, ce qui n'était pas toujours du goût des parents de François. Choisir ses amis, c'était choisir son avenir. Jacques ne pensait pas à l'avenir. Puis, les parents de François ont envoyé leur fils dans une grande école parisienne. Lorsque des années plus tard, il est rentré diplômé de l'école polytechnique, ils se sont retrouvés comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Jacques n'avait pas d'autre choix qu'une vie réglée sur celle de son père. Un dédommagement pour le chagrin causé par la mort de sa mère. Au début, le Dédé avait pris de la dépression, comme il disait. S'était renfermé, n'était plus rattaché au monde que par des gestes quotidiens. Puis, les choses avaient changé quand Jacques avait reçu les papiers pour le service militaire. Ensuite, il avait pensé que Jacques pourrait avoir besoin de lui. Quand ils se retrouvaient sur les bords du Vidourle, ils se parlaient peu. Il leur suffisait d'être ensemble, une accolade comme un poème, une évidence, plus sûre qu'une déclaration, plus calme que le ruisseau qui coulait à travers la garrigue. Assis sur les berges, il reprenait une histoire très ancienne, d'avant la parole, mais sans en avoir conscience. Une façon d'être au monde avec le sentiment que rien ne vous manque. Jacques fumait cigarette sur cigarette. Ça inquiétait son père qui le trouvait trop maigre. Il disait « Si tu fumais moins, tu mangerais plus ». Depuis la mort de Noémie, il se sentait doublement responsable, comme si deux voies s'étaient superposées. Surtout pour la nourriture, jamais pour les études, encore moins pour les filles. Dans les grandes occasions, ils se rapprochaient un peu, mais sans vraiment se parler. Au temple, assis l'un à côté de l'autre, ils regardaient l'organiste tirer les jeux. Ça sonnait comme du cristal avec des sons très doux qui rappelaient ceux d'une flûte ancienne. Mais ils ne parlaient jamais des filles, à cause d'une pudeur virile, et de la religion aussi. Jacques avait peu d'amis en dehors de François. Il connaissait bien cette solitude qui finit par devenir une compagne. Quand il rencontrait des filles, il aimait les prendre dans ses bras, puis il se lassait. La fidélité était une idée futile, comme si on se pensait irremplaçable. Il disait pour se moquer qu'il aimait les filles et aussi les voitures. Une liberté, en somme, qui ne lui demandait aucune preuve véritable. Après, il s'était dit qu'il ne pouvait pas passer de l'une à l'autre comme ça, mais c'était devenu une habitude. Une façon de vivre qui était moins une compensation qu'une quête éperdue. Quand il avait rencontré Jeanne, il ne s'était plus moqué. Il n'attendait rien de précis, ou bien peut-être qu'elle le comprenne, le révèle comme le messager qui vient porter annonce aux habitants d'une terre étrangère. Jacques avait eu tout de suite des sentiments pour Jeanne. Il ignorait tout de l'émotion qui étreint. Au début, il avait eu peur d'être englouti. Il l'avait rencontrée un dimanche après l'office. Il ne se souvenait plus comment elle avait fait pour qu'il la remarque, à moins que ce ne soit l'inverse. Elle avait sa main posée sur l'encolure de sa veste. Puis, machinalement, elle avait desserré son foulard et Jacques avait aperçu sa nuque. Le soir encore, il s'était rappelé la scène et avait repoussé le sommeil pour continuer d'y penser. Pour François, c'était différent. Il attendait qu'on lui présente celle qu'il épouserait. C'était entendu comme ça. C'était l'usage dans les grandes familles bourgeoises. Le mariage contractualisait la pérennité des biens et aussi des personnes.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer. Si tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. C'est pas ce que la vie nous donne. Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton poids.
À voix haute, Meredith Ledez.
Il était arrivé plus d'une fois qu'il passe du temps sans se voir. Au début, Jacques avait compté les jours, puis il avait oublié. Les parents de François étaient fiers de leur fils. Il réussissait et le reste suivrait, c'est sûr. François réapparaissait aux vacances scolaires, sauf quand il allait au sport d'hiver. Quand il passait devant leur maison, Jacques jetait un regard furtif, mais ne s'arrêtait pas. Certains soirs, François lui manquait. Dehors, la lumière devenait rose à cause du soleil qui déclinait. Le paysage changeait de couleur lui aussi. Alors, il prenait son vélo, entrait dans la garrigue, pédalait vite. Les herbes rousses craquaient sous les coups de pédale. Avec la nuit, le vide ourle lui paraissait large. Une fois, il s'était dit qu'il pourrait pousser jusqu'au canal du Midi, mais il avait pensé à son père. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour l'accompagner. À moins qu'il ne prévoie de partir tôt, la convocation précisait qu'aucun retard ne serait toléré. Jacques devait se présenter à la caserne qui longeait le port de Marseille à 18h. Le bateau partait à 21h. C'était la dernière soirée qu'il passait à Nîmes. Un instant, il avait songé à retrouver une fille et à l'inviter au restaurant. Puis, il avait eu des scrupules à cause de son père. En rentrant, Jacques avait trouvé la table dressée. Le Dédé avait sorti la vaisselle du dimanche. La sirène hurlait à intervalles réguliers. Au loin, la mer s'étendait avec une lassitude de fin de journée. Quand la nuit tomberait, ça ferait une grande nappe noire devant eux. Mangano était là, à passer les troupes en revue. Les jeunes appelés du 35e régiment le saluaient en présentant leurs papiers. Sur le quai s'élevait une clameur patriotique. Jacques, arrivé à la dernière minute, s'était débarrassé de son vélo en le confiant au patron d'un bar qu'il connaissait bien. Cette petite manœuvre réussie lui avait valu une accolade bien virile. Il n'avait pas l'habitude de cette façon de faire, surtout pas avec son père, surtout pas avec François. Avec François, c'était différent. Ils se comprenaient sans rien dire. Le Dédé, lui, ne savait pas faire ces gestes-là. Il marmonnait dans sa barbe ou bien il se mettait en colère. Ça montait progressivement et Jacques le sentait. Depuis le temps, il avait appris à faire avec. Il reconnaissait les signes, ne sombrait pas avec lui, traversait ses colères comme un funambule. Depuis la mort de Noémie, il fallait continuer tout en maintenant l'équilibre. En quittant le gars du bar après avoir laissé son vélo, il avait croisé une femme qui étreignait son fils. Puis Jacques avait allumé une cigarette. Au loin, des matelots chargeaient les dernières caisses de vivres. Il en avait déduit que les cuisines se trouvaient à l'avant du paquebot. La lune s'était levée. Elle éclairait un couloir de mer de plus de 300 mètres, ce qui faisait éprouver l'immensité du reste. Au pied du phare, l'écume crachait des petites vapeurs blanches qui distillaient une musique analogue à une courte respiration. Sur le pont, le commandant de bord puisait sa grandeur dans un sourire complice adressé à son équipage qui attendait l'ordre de lever l'ancre. Tout à l'heure, avec la première étoile, la nuit deviendrait le décor d'une scène où les hommes se sentiraient abandonnés. Ça ne durerait pas longtemps. Il choisirait, entre tous les camarades, ce qu'une force intérieure ramène à un certain fatalisme. Sur la jetée, les femmes pleuraient en agitant leurs mouchoirs. Les hommes étaient fiers de voir leur fils partir sous les drapeaux. Le service militaire était un hommage à la vie qu'il leur avait donnée. Passé le tumulte du départ, dans l'air maintenant rafraîchi, chacun essayait de trouver sur les visages un signe d'humanité, une coïncidence avec soi. Ça aiderait pour la suite. S'il y a bien quelque chose qu'ils partageaient, c'est une imagination folle à propos de ce qu'ils allaient vivre. Jacques ne disait rien. Il recrachait par les narines la fumée de sa balto. Cette chose-là, l'odeur de la balto. Une sensation qu'il n'aurait partagée avec personne, qui n'était qu'à lui. Sur le pont, des gars passaient seuls ou en petits groupes, selon les accointances du début. Il avait fumé une grande partie de la nuit, puis il s'était sûrement endormi. Un peu avant le lever du jour, la tête assourdie par les bruits de moteur, Jacques sentit qu'il n'était pas seul. L'homme assis à côté de lui s'animait du paysage incertain, comme s'il entrait dans la beauté des choses. En se retournant vers lui, Jacques eut l'impression de le déranger. Il aurait bien dit quelque chose, une phrase banale, puis s'était ravisé. Il avait appris à être silencieux dans certaines circonstances. Il le tenait de François, un respect à l'égard de ce que l'autre éprouve en notre présence. Jacques restait silencieux, se contentant de regarder Jonas qui regardait la mer. Avec le jour, elle prenait l'allure d'une légère toile matelassée, apportant une solution provisoire à tous ceux que la nuit avait angoissés. À peine embarqué, l'adjudant Roll avait rassemblé tout le monde pour un discours de bienvenue. C'était un homme trapu, fort en gueule et doté d'une voix de fausset qui allait loin dans les aigus. Ses expressions imagées de vieux colonial ne mentaient pas. On savait ce qu'il pensait rien qu'à le regarder. Il déroulait le réel à coups de slogans et de rires gras. En Algérie, les événements touchaient à leur fin et la mission du 35e régiment consistait à accompagner la transition. C'étaient ses mots. Les gars étaient fatigués. Ils n'avaient pas eu envie d'échanger. Après ce bref exposé, chacun avait regagné sa cabine. Il arrive parfois que les choses paraissent évidentes et qu'elles se révèlent à l'exact opposé de ce que le bon sens préconise. En guise de cabine, des lits superposés avaient été installés dans les cales du bateau. Pour la douche, il fallait être patient. Le défilé pouvait durer des heures. Les conditions de vie mettaient de la tension entre les gars. Il n'y en avait que ça rendait nerveux. Si au début certains s'étaient rêvés en aventuriers, les mêmes se montraient déjà plus réalistes. L'excitation était vite retombée. Les raccordements d'eau pétaient à cause de la chaleur et de la vétusté des installations. Les toilettes ressemblaient à des fosses d'aisance où plus personne n'osait se rendre. Chaque jour, les cabines manquaient d'être inondées et il fallait régulièrement déverser dans la mer des seaux d'urine et d'eau de vaisselle. Jonas n'était ni un bavard ni un taiseux, il s'adaptait. Sa devise, pas d'illusion, pas de déception. Il pouvait être drôle. Jacques, lui, ne l'était pas particulièrement. Il ressemblait à ces personnages de théâtre qui se distinguent par leur attitude ou leurs intonations imprévisibles, s'affranchissant ainsi des intentions de l'auteur. L'air absorbé, les mains dans les poches, il était là et aussi il n'était pas là, ou bien il pensait à Jeanne. Il mangeait mal, des assiettes de pâtes avec de la sauce tomate qui coulait sur le menton. Le cuisinier s'appelait Eddy. Il disait que c'était la planque de travailler dans l'armée. La solde était honnête et en plus, il voyait du pays. Ça faisait des années qu'il n'était pas rentré chez lui. Il avait fait le calcul. Il avait même compté les jours. Jacques tirait sur ses baltos. C'étaient des cigarettes blondes américaines. Parfois, il humait le paquet avant de l'ouvrir. L'Amérique le faisait rêver. Comme elle avait fait rêver les enfants de son quartier quand, sous l'occupation, les G.I. leur avaient distribué des chewing-gums. Il avait connu ça, et les tickets de rationnement aussi. Ce nom de Balto qui ne voulait rien dire et qui avait le goût de Dieu réveillait les souvenirs, comme cette première fois où Nîmes s'était retrouvé sous la neige. Il était adolescent. François et lui étaient allés dans la garrigue pour voir comment en une seule nuit tout avait changé. Après ça, ils avaient passé plusieurs jours à attendre le moment où tout reviendrait comme avant. Les traits creusés par la fatigue, longuement façonnés par un vent qui usait l'âme comme des galets, ils se rapprochaient maintenant des côtes. L'éventualité qu'ils n'arrivent jamais à destination en avait hanté plus d'un. La plupart avaient fait la traversée dans la netteté de quelques formules qu'ils se répétaient pour ne pas craquer. D'autres n'avaient pas quitté leur cabine, les mains sur les tempes. À cause du bruit des vagues qui tapaient contre la carlingue, un battement régulier qui rendait cinglé. En apercevant les collines se décoller du reste, ils eurent un sentiment que les artistes connaissent bien, l'échange entre la pensée et la singularité d'un paysage. Les mécaniciens avaient coupé les moteurs. Le bateau glissait, d'où l'impression d'un mouvement décomposé en d'innombrables moments qui s'animaient comme au cinéma. Les gars regardaient partout et même confusément, comme s'ils compensaient par une diffraction de point de vue ce dont ils avaient été privés pendant plus de 2 jours. La côte, rapetissée par la perspective, offrait un relief avenant, et la ville, petit point phosphorescent qui, à mesure qu'il se rapprochait, se dépliait comme un jeu de cartes, apparaissait dans sa blancheur énigmatique. À ce même moment, à Nîmes ou à Marseille, les gens riaient peut-être. Ils pensaient à ça, Jacques, quand ils ont débarqué. C'était le soir. De l'autre côté de la Méditerranée, c'était le soir aussi. Si on n'avait pas été en guerre, on aurait pu penser qu'ils venaient passer quelques jours dans la capitale de l'Algérie française à cause de leur allure d'adolescent. Jonas faisait des commentaires avec un enthousiasme décomplexé. D'autres sifflotaient dans les rangs. Ils étaient enchantés de tout ce qu'ils voyaient, comme si le paysage avait disculpé leur ignorance esthétique. Pour un peu, ils n'auraient pas voulu déranger toute cette beauté qui sonnait comme une revanche après ce qu'ils avaient enduré. Les falaises, taillées dans des blocs de lumière, éclairaient le crépuscule naissant. Bien autre chose que ce qu'il leur avait semblé se déroulait devant eux. Rangés les uns à côté des autres, leurs visages étaient pacifiés par une sorte d'idéalisation qu'ils accordaient au génie des lieux. Le contraste entre les pêcheurs qui préparaient leurs filets et le va-et-vient des camions et des soldats était saisissant. Ils n'avaient pas l'air d'être coulés dans le même monde. Plus loin, on apercevait des files de gens qui attendaient pour embarquer. Ils ne parlaient pas vraiment entre eux, hormis quelques exclamations qu'ils articulaient mal et fort. Le gouvernement français avait affrété des bateaux pour ceux qui avaient tardé à rentrer en France. Comme une colonie de moines marcheurs, ils n'avaient apporté qu'une valise, des vêtements, des livres aussi. C'était Jacques et la corvée de bois, un roman de Marie-Aimée Le Breton, paru aux éditions Buchet-Chastel en 2020. Cette émission était, comme toujours, réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson de Françoise Hardy, L'Amitié, datant de 1965. Et quant à moi, je vous souhaite un beau samedi soir et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.